Merci de votre fidélité, ravi de vous retrouver sur Radio Mayuri Campus. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur la centrale du Larivot avec sa directrice, Madame Gaëlle Pailly-Gambard. Bonjour Madame, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Monsieur Plaisir et bonjour à tous les auditeurs de Radio Mayuri Campus.
Un projet qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas qui provoque de la colère, notamment chez un certain nombre de collectifs, on en parlera tout à l'heure. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter les spécificités peut-être de ce projet ?
Bien sûr. Alors la centrale, la future centrale électrique du Larivot est un projet qui répond en fait à une commande donc une commande qui a été formulée par le territoire et par le ministère de la Transition écologique et solidaire via ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie validée en 2017. Donc cette PPE a identifié le besoin d'avoir un nouvel outil de production basé sur l'île de Cayenne de manière à remplacer la centrale de Dégradécane. Donc la centrale de Dégradécane, c'est une centrale qui aujourd'hui a plus de 40 ans et après de longues années de bons et loyaux services a grandement mérité sa retraite. Donc si vous me permettez, j'en profite au passage pour saluer les agents de Dégradécane qui fournissent un formidable travail.
Qui continue à fonctionner,
mais qui continue à fonctionner.
Qui est prévu de s'arrêter. Quand ?
Eh ben, qui s'arrêtera quand la centrale du Larivot sera mise en service. Donc, d'où.
Et ça, c'est prévu pour quelle date ?
Alors, ça, c'est prévu pour l'année 2024.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a vraiment une importance, j'allais dire un motif impérieux, presque, c'est le mot à la mode. Mais voilà, il y a vraiment, une importance pour la Guyane, donc que cette centrale soit construite et mise en service, puisque la centrale de Dégradécane, pardon, est aujourd'hui à bout de souffle. Donc, pour en revenir à votre question, donc ce projet, donc c'est une centrale pour partie thermique, constituée de 7 moteurs à combustion, donc qui fonctionneront leur mise en service à la biomasse liquide, autrement appelée biocombustible, donc avec une puissance totale d'environ 120 MW, et pour l'autre partie, une centrale photovoltaïque qui sera soumise à appel d'offres, hein, puisque c'est le chemin classique pour ce type d'installation, et qui, elle, donc sera d'une capacité d'environ 4 MW.
Alors, en quoi correspond-elle aux besoins énergétiques de la Guyane ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le besoin a été identifié par donc ce qu'on appelle la PPE. Et la PPE, c'est l'aboutissement de plusieurs de sessions de travail avec tous les experts du domaine qui anticipent les besoins de la Guyane au niveau énergétique. Donc, dont les besoins électriques. Et donc, ces ateliers ont mené à la conclusion qu'il fallait remplacer Dégradécane et qu'il fallait la remplacer par un moyen de production capable de générer donc une électricité fiable et garantie. J'insiste vraiment sur la partie garantie. C'est-à-dire que peu importe la saison, peu importe le temps, cette centrale sera capable de démarrer et de fournir de l'électricité.
Donc en clair, avec cette centrale, il y aura moins de coupures d'électricité en Guyane. Et puis il y a des zones peut-être qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, qui le seront en 2024.
Alors, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura l'électricité pour répondre à la demande. Après, la question des zones à couvrir ou pas, ça, c'est une question plutôt réseau, donc qu'il faudra poser donc au gestionnaire de réseau, hein, qui est EDF Guyane. Pour ma part, donc, le projet de la centrale du Larivot est développé par une filiale du groupe EDF qui s'appelle EDF PEI et qui est une filiale qui a déjà construit plusieurs centrales dans les DOM, notamment en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et également en Corse. Donc pour le coup, c'est un créneau que nous connaissons bien. Et voilà, la Guyane, c'est un peu la petite dernière.
Est-ce que cette centrale va permettre de pallier aux coupures d'électricité dont les Guyanais en ont
C'est l'objectif, de contribuer effectivement à une augmentation, à un mieux-être, à un bien-être de la population et vraiment d'accompagner le territoire dans son développement. Donc un développement aussi bien économique que démographique, puisque voilà, on sait qu'aujourd'hui la Guyane est quand même le département qui a le plus fort taux de développement, de croissance démographique. Voilà. Et ça, si vous me permettez une petite précision, en accompagnant également, donc il y a effectivement l'accompagnement en termes de développement de besoins, mais aussi sur la politique du territoire, d'avoir une transition énergétique qui soit exemplaire. Alors la Guyane aujourd'hui est déjà exemplaire, hein, en termes de mix énergétique. Alors c'est peut-être pas assez dit, c'est peut-être pas assez valorisé, mais la Guyane c'est le département le plus vert de France. C'est-à-dire que on a, grâce au barrage de Petit Sault, en moyenne, hein, 2/3 de l'énergie qui est produite par une installation, ce qu'on qualifie de ENR, donc de renouvelable. Et grâce à la centrale du Larivot, on va pouvoir justement contribuer très fortement à l'atteinte de l'objectif des 100% ENR sur le réseau guyanais, et ça conformément à la volonté donc de la région et à la loi de transition énergétique.
Alors on parle d'une centrale à la biomasse. Pour le grand public, qu'est-ce que cela signifie ?
Une centrale à la biomasse, alors il y a deux types de biomasse. Il y a la biomasse solide, par exemple la toute nouvelle unité de cacao qui a été mise en service récemment, donc qui fonctionne à la biomasse solide, donc avec des coupeaux de bois, des chaises scieries. Et pour le cas de la centrale du Larivot, on est sur de la biomasse liquide, plus communément appelée biocombustible. Voilà, donc c'est un combustible notamment qu'on peut déjà utiliser dans les voitures.
Alors, les collectifs pointent du doigt l'impact justement de cette centrale sur l'environnement. Qu'avez-vous à répondre à cela ?
Bah, écoutez, cette centrale, elle est exemplaire, j'ai envie de dire, titre.
Il va bien falloir défricher.
Alors, va bien falloir défricher, mais vous le savez, en Guyane, si vous voulez faire du neuf, c'est compliqué sans défricher. Ouais.
Dit défricher, c'est détruire la faune, la flore, des espèces rares.
Mais pas n'importe comment. Donc, pour répondre à votre question, cette centrale, elle est respectueuse de l'environnement à plusieurs titres. Premièrement, il y a un standard environnemental auquel on ne peut déroger, c'est le cadre réglementaire. Cette centrale, parmi toutes les autorisations qu'elle a obtenues au bout de 4 ans de développement quand même, il y a une autorisation de construire et d'exploiter au titre du code de l'environnement. Donc, et la France est plutôt connue pour avoir un corpus réglementaire solide.
Accordé par le ministère de l'écologie ?
Alors, accordé par la préfecture, parce que c'est la préfecture qui est compétente pour la délivrance d'autorisation, mais évidemment, cela ne se fait jamais sans l'aval du ministère. Donc, la première chose, c'est le strict respect de la réglementation, sans quoi on n'aurait pas eu les autorisations qu'on nous a délivrées fin 2020. C'est la première chose. Deuxièmement, cette centrale, dès son développement, le respect, la sensibilisation aux enjeux de biodiversité a vraiment fait preuve d'un grand point d'attention de notre part, puisque... À titre d'exemple, hein, la toute première étude qu'on a faite pour dimensionner cette centrale, c'est l'étude faune-flore. C'est-à-dire que l'origine même du design, du plan de masse de la centrale, c'est l'étude faune-flore. Donc, initialement, on avait, pour la petite histoire, hein, prévu une centrale thermique d'un côté de la RN1 et une centrale photovoltaïque pardon, de l'autre côté. Lorsque nous avons réalisé les inventaires faune-flore et que nous avons constaté qu'il y avait des espèces protégées sur la zone où on comptait installer la centrale photovoltaïque, nous l'avons déplacée de manière à en diminuer l'impact. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons vraiment tenu à mettre en œuvre des mesures qu'on qualifie de RC, donc évitement, réduction, compensation et même d'accompagnement, qui soient à la hauteur d'un projet comme celui de la centrale du Larivot. Et vraiment, j'en veux pour exemple notre mesure de compensation. Vous parliez tout à l'heure du défrichement. Pour compenser l'impact qu'on aura, donc si on parle de 16 hectares pardon, hein, d'emprise, pour compenser cet impact, nous nous sommes engagés en partenariat avec la CTG et le PNRG, donc le Parc Naturel Régional de Guyane, à sanctuariser 150 hectares, donc 10 fois plus que notre emprise, 150 hectares à proximité de la centrale, d'une zone naturelle.
Je ne comprends pas. Dites-moi. Vous mobilisez 16 hectares pour la centrale
pour
et vous allez sanctuariser 150 hectares.
C'est ça, c'est une mesure de compensation. C'est-à-dire que pour compenser donc, les impacts environnementaux de votre projet, la réglementation vous invite à proposer une mesure de compensation, des mesures de compensation. Nous en avons proposé diverses, des partenariats avec la ferme pédagogique, une ferme pédagogique qui est à proximité du projet, des partenariats avec, par exemple, de financement sur l'étude de la biche des palétifiés, etc.
Mais ces 150 hectares appartiennent également à EDF ou pas ?
Alors, pour partie. C'est-à-dire que EDF, dans la zone, a une propriété de 110 hectares. Sur ces 110 hectares, donc on a une emprise de projet de 16 hectares. Mmh. On a également le village amérindien Palicourt qui se situe sur ces 110 hectares.
Et donc, vous menacez ce village ?
Pas du tout. Il n'est pas du tout sur l'emprise du projet et on entretient de très bonnes relations avec le village que nous accompagnons et avec qui nous avons vraiment une relation de partenariat. Et donc, une fois que vous retirez l'emprise du projet et le village, tout le reste des parcelles d'EDF seront sanctuarisées et donc ça représente environ 80 hectares.
C'est un grand mot quand même, sanctuarisé.
C'est un grand mot et c'est un mot fort, j'ai envie de dire, puisque quand on dit sanctuarisé et valorisé, c'est-à-dire qu'on s'est engagé, nous, à ne développer aucun autre projet sur 99 ans. Je veux dire, pour vous donner une image, aujourd'hui, un porteur de projet, quand il propose une mesure de compensation, il la dimensionne sur la période de fonctionnement de son outil. C'est assez logique. Nous, on a voulu aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un véhicule réglementaire qui permet à des porteurs de projet, justement, propriétaires de terrain, de mettre en œuvre certaines mesures de protection. Et nous avons fait le choix de conserver, de sanctuariser. Quand je parle de sanctuarisation, c'est pas juste dire on va rien y faire, c'est aussi avoir un plan de gestion qui permette d'avoir des moyens pour protéger ce terrain. Voilà.
Alors aujourd'hui, il y a 4 recours qui ont été déposés par des collectifs contre EDF. Est-ce que cela ne va pas mettre un coup de frein au projet ?
Alors, pas du tout, puisque donc, ces recours, effectivement, ont été déposés. Alors, en l'occurrence, 2 au tribunal administratif, les autres étant des recours gracieux, donc adressés à la préfecture. Sur ces 2 recours, aucun d'eux n'empêche le lancement du chantier. Donc, on va y répondre, on va laisser l'instruction suivre son cours, mais ils ne mettent pas en péril le projet, le lancement de sa construction. Et je pense que c'est très important parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même un impératif qui est celui de remplacer des gradés cannes. Donc, on a déjà eu une instruction qui a été un peu plus longue que prévu, l'année 2020 ayant été particulière pour tous. Et donc, il est important, effectivement, que ces travaux puissent se lancer pour que la centrale soit mise en service dans les temps. Voilà. Donc après, vous savez, tous les grands projets font l'objet de recours. Voilà. C'est aussi un moyen d'expression pour les tiers, que de déposer ces recours.
Peut-être qu'il y a eu une faille au niveau de la sensibilisation de certains nombres d'acteurs qui auraient évité d'en arriver là aujourd'hui, en amont du projet.
Des phases de concertation, nous en avons eu. Nous en avons eu, par exemple, en 2018, puisqu'il y a eu des réunions de concertation qui ont été organisées par le projet, dont un atelier où les associations environnementales étaient invitées, auxquelles étaient j'espère que ma phrase est correcte. Et puis après, la concertation a vraiment été le maître mot du développement du projet. Là pour le coup, je vais parler vraiment à la première personne. Ma porte a toujours été ouverte. Ces associations, nous avons échangé avec elles, nous leur avons demandé de contribuer, de nous passer leurs propositions d'amélioration, qui d'ailleurs ont été retenues, puisque l'une d'entre elles nous a fait des propositions, notamment pour enrichir notre plan de gestion. Donc on leur a communiqué ce plan de gestion. Ils ont proposer leur amélioration et on les a retenus. Donc il y a eu de la concertation en amont, il y a eu encore de la concertation grâce à l'enquête publique. Voilà, et encore une fois, ma porte est ouverte et mon numéro de téléphone est connu de ces collectifs.
Et avec cette centrale, est-ce que la facture d'électricité des Guyanais va baisser ?
Alors c'est une question qui revient souvent, heureusement non, puisque...
Heureusement
Pardon ?
Heureusement non.
Heureusement non, c'est ce que j'ai dit, non ? Ouais. Ma langue n'a pas fourché. Donc heureusement non, puisque...
Et malheureusement pour les consommateurs, je dirais.
Pourquoi malheureusement ? S'il n'y a pas d'augmentation ?
S'il n'y a pas de diminution au niveau de leur facture.
Ah d'accord, alors en fait, le prix
C'était
de
ça
l'électricité...
ma question, est-ce que les factures allaient baisser ?
Ah d'accord, j'ai compris, est-ce qu'elles allaient augmenter ? Parce que souvent on nous demande, est-ce que ça va augmenter ? Alors en fait, le prix de vente de l'électricité, c'est le même pour tout le monde en France. Donc il n'y a pas d'impact, il n'y aura pas d'impact sur la facture d'électricité, que ça soit des Guyanais ou des habitants de France et de Navarre.
Quelles vont être les retombées au niveau de l'emploi par rapport à cette centrale ? Est-ce qu'il va y avoir des créations d'emplois ? Si oui, combien ? Et quel statut, quel type d'emploi ? Parce que ça aussi, c'est une question qui revient. Que,
oui.
On vous reproche finalement à terme de créer que des emplois précaires dans ce projet.
Alors, je trouve ça particulièrement injuste, et pour moi et pour les constructeurs qui sont engagés avec nous sur ce chantier. Alors, il y aura deux phases déjà. Premièrement, il y a la phase de construction. Sur la phase de construction, il y a 130 millions d'euros qui ont été signés avec des entreprises guyanaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce chantier, il permet à des entreprises guyanaises de participer en tant que titulaire de contrat à la construction de ce qui est le plus gros chantier sur les années à venir. Et d'ailleurs, c'est la première fois que des entreprises guyanaises sont titulaires de contrats aussi importants. Donc concrètement, ça va se caractériser, comment sur le chantier. On va avoir besoin de bras et de cerveau. Et pour avoir un ordre de grandeur, un tel chantier, c'est à peu près 250 personnes en moyenne sur le site, avec des pics à 500 personnes. Et on a inclus dans chaque contrat de construction une clause d'insertion sociale, c'est-à-dire que les constructeurs sont obligés de dédier 5% des heures de chantier à des personnes éloignées de l'emploi. Et pour les aider à accomplir cet engagement contractuel, on a également une convention avec le GEC BTB qui est très bien connu sur la place et qui va proposer des profils et encadrer ces personnes. Donc la première phase, j'ai envie de dire, en termes de perspective d'emploi, elle est sur le chantier, donc de manière directe. Et puis, il y aura aussi des retombées indirectes, parce que les personnes qui seront sur le chantier, elles auront besoin de se nourrir, elles auront besoin, pour celles qui ne sont pas de l'île de Cayenne, de se loger, de se véhiculer. Donc, voilà, on est persuadé, un chantier de cette ampleur génère toujours de l'activité également connexe. Ensuite, la deuxième phase, ça va être l'exploitation. Donc ce qu'on appelle l'exploitation, c'est la phase de fonctionnement de la centrale, plus simplement dit. Et là, on est sur la conservation des compétences de Dégradé Cannes. Donc le chantier, la centrale, elle va permettre de sauvegarder au final des emplois de Dégradé Cannes. Donc on aura...
Donc les gens qui étaient en poste à Dégradé Cannes vont rejoindre la nouvelle centrale.
Vont rejoindre la nouvelle centrale. Et de nos estimations, il y aura encore de la place pour de l'embauche. Voilà. L'organigramme ne sera pas complété. Aujourd'hui, je ne peux pas vous m'avancer sur des chiffres précis. Ce que je sais, c'est que y aura de la place pour de l'embauche, puisqu'on a un organigramme de 80 personnes environ pour vraiment les emplois EDF et un besoin de 20 personnes environ pour tout ce qui est prestataire récurrent, tel que tout ce qui est entretien, espace vert, etc. Et alors, il y a une autre opportunité que va permettre cette centrale, et pour le coup je suis bien placée pour en parler, c'est tout ce qui est opportunité de formation, de stage. Le groupe EDF, c'est un groupe qui est très engagé, très impliqué dans la formation des jeunes via de l'alternance, via des stages. J'ai moi-même eu le déclic concernant mon domaine professionnel, la technique, suite à un stage chez EDF. Et c'est un passe-fort non négligeable aussi pour l'avenir de nos jeunes.
Puisque vous parlez de formation, de parcours, est-ce que vous pouvez nous parler du vôtre ?
Mon parcours ? Alors moi, je suis ingénieure de formation. J'ai fait une école de Poitiers qui s'appelle l'ANSMA, plutôt sur la mécanique et dédiée à tout ce qui est aérien dans l'aviation. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle l'IFP School. Donc c'est une école qui, là encore, permet en alternance de faire un master et de se spécialiser, pour mon cas, dans tout ce qui était ingénierie de moteur automobile. Voilà, et donc à la suite de ces diplômes, j'ai d'abord exercé dans le milieu automobile, donc chez Renault, chez Peugeot, et je m'étais faite la promesse en fait de un jour revenir dans les DOM pour mettre à profit mon parcours à mon honorable contribution.
C'est très tendance actuellement. Il y a des associations qui œuvrent dans ce sens. On pense à Outre-mer, cette association de la région parisienne qui incite justement les jeunes à rentrer dans les DOM pour participer au développement économique de ces territoires.
Oui, ce sont des belles
initiatives.
De belles initiatives, merci. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et donc moi, ça va faire maintenant 10 ans que je travaille chez EDF. Je suis passée par la Guadeloupe, par la Réunion, et donc depuis 2 ans et demi en Guyane sur ce projet, dont je suis vraiment très fière.
Gaël Payimgamba, comment allez-vous faire pour rassurer ces collectifs qui veulent absolument voir ce projet arrêté ?
Les rassurer, moi j'ai envie de leur dire ma porte est ouverte, donc s'ils veulent qu'on échange à nouveau dessus, on est toujours disponible. Après, le projet, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il répond à un besoin impérieux, qui est celui de fournir de l'électricité garantie, renouvelable en l'occurrence, pour la Guyane. Voilà, l'objectif est celui-là. Alors après, je peux entendre qu'il y a des gens qui ont des avis divers et variés, contraires, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de consultations. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la consultation autour du projet, mais même la PPE elle-même a fait l'objet d'une consultation. Donc si la décision a été prise de faire cette centrale thermique de 120 MW, c'est après vraiment mûre réflexion. Donc ça, c'est la première chose. Et après, s'il y a des craintes, alors, peut-être parce qu'on se dit, mais c'est une centrale, c'est un moyen industriel. Là encore, il y a la réglementation. Et on parlait tout à l'heure d'environnement, mais dans ce code de l'environnement, il y a aussi toute la partie sécurité, risque industriel, risque sanitaire, risque de pollution. Et il y a une réglementation qui est très stricte là-dessus. Et donc, si on n'avait pas apporté tous les gages de respect de cette réglementation, nous n'aurions pas obtenu nos autorisations. Or, on les a.
Voilà. Ça va être ma dernière question. À quelle phase en est-on aujourd'hui dans le cadre de ce projet ? Peut-être la fondation, et surtout, quelles sont les étapes à venir ?
En termes de planning, donc, nous avons tout juste commencé la préparation du terrain donc, ce mois-ci, le premier de ce mois, pour être plus exact. Donc là, l'année 2021 va vraiment être consacrée au terrassement, aux préparations du terrain. En 2022, on va avoir le génie civil, le gros du génie civil. Sur 2023, on est sur du montage, de l'assemblage au niveau des process, donc câblage électrique, les réseaux, la tuyauterie, etc. Et donc sur 2024, on sera sur la fin des essais de mise en service et donc enfin la mise en service de cette installation.
Parfait, Gaël Payimgamba. Je rappelle que vous êtes la directrice du projet central du Larivot. Merci d'avoir été notre invitée. Au revoir.
Merci à vous.